Bonjour à tous. Aujourd'hui, Radio Sommière rencontre Bastien Croc, pianiste, batteur, conteur, dans le cadre du réseau des médiathèques de la communauté des communes du pays de Sommière. Il est venu présenter son spectacle Le Loup Bleu dans la cour de l'espace culturel Laurence Durel. Retrouvons-le afin de découvrir son univers artistique.
Tu pourrais nous présenter un petit peu ton parcours qui a l'air assez atypique, hein, de la musique au conte. Comment tu as fait tout ce parcours? Je crois qu'il a démarré dès l'âge de 4 ans.
Ouais, c'est ça. Alors, si tu veux, pour moi, tout est assez lié finalement. Je vais te parler de mon parcours de musicien, mais il y a des raisons dans mon parcours de musicien qui font que je suis venu au conte. Il y a des raisons qui font que voilà. Donc, on va se retrouver un peu toujours dans les mêmes domaines. J'ai commencé la musique à 4 ans. Mes deux parents sont musiciens classiques. Professionnel, voilà, ça aide. Et donc, on a une tradition familiale qui est de choisir son instrument de musique à 4 ans. Mes parents, donc, mon bon musicien classique, m'ont dit « Qu'est-ce que tu veux faire comme instrument ?» J'ai dit « La batterie. » Mais la batterie, pas les percussions, quoi, pas les timbales et les claviers, non, la batterie rock, quoi, jazz, tu vois, la batterie. Donc, ils ont fait « Ok, d'accord, ouais, écoute, c'était ouvert, tu vois, donc la batterie. » Ils m'ont dit « Il faut aussi que tu fasses un instrument harmonique, tu vas aussi faire du piano, c'est important dans ta formation de musicien. » Ma marraine était pianiste, on était entouré de pas mal de pianistes pros que j'aimais bien, donc bon, le piano c'était, ouais, c'était cool aussi comme instrument. Donc j'ai commencé les deux, on m'a mis plutôt au percu classique quand même qu'à la batterie, bon, j'avais quand même des baguettes et des tambours. À 8 ans, ma prof de piano m'a lancé un défi, elle m'a dit « Écoute Bastien, t'es doué en piano, si tu veux faire ça en professionnel, faut à partir d'aujourd'hui que t'en fasses 2 heures tous les jours ». Je suis rentré, j'ai dit à ma mère « Bon voilà, je veux être pianiste professionnel » et j'en ai fait 2 heures tous les jours de 8 ans. Temps à aujourd'hui. Voilà, donc gamin, disons ado, j'avais un très bon niveau de piano et j'étais aussi dans un système assez institutionnel. Le conservatoire, les trucs, j'étais dans les écoles à Paris en horaire aménagé, tu sais, où t'as le musicien, les danseurs de l'opéra, etc. J'étais dans ce truc-là. Et puis ado, disons que la musique classique, c'était un truc fort pour moi, ça me nourrissait. Mais c'était en décalage avec ma vie d'adolescent, quoi. Tu vas à Paris dans le métro, t'as pas envie d'écouter du Debussy dans ton Walkman, tu vois. Moi, j'écoutais du rock. J'ai commencé en 88 à écouter Metallica, Iron Maiden, Guns N' Roses. Tu vois, c'était vraiment la grande époque du métal, du rock. Et j'ai commencé à en jouer avec mes copains. Voilà, donc mon grand frère faisait déjà de la... Entre-temps, j'avais arrêté les percus, hein, parce que les 2 heures de piano tous les jours, ça me suffisait, tu vois. Donc la batterie, c'était plus qu'un vieux souvenir. Et donc ado, mon frère jouait de la guitare, donc je n'allais pas, moi, me mettre à la guitare pour jouer avec mes potes. Donc je me suis mis à la batterie. Et là, ça fait clic, quoi. Enfin, il y a un truc qui s'est produit. Et voilà, et j'ai eu après vachement de mal à choisir. Mes parents me disaient, ben voilà, en bon hyper spécialiste, mon fils, il faut que tu choisisses un instrument si tu veux en faire ton métier. Et donc j'ai choisi l'un, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre, jusqu'au jour où je me suis dit, bah, je vais faire les deux. Voilà, donc j'ai une formation de pianiste concertiste hyper poussée, et j'ai une formation de batteur. Voilà, je me suis formé avec un type qui s'appelle Thomas Patrice, qui était lui un grand spécialiste de la batterie en solo. Et, bon, il m'a appris à jouer de la batterie en groupe aussi, hein. J'ai fait le métier rock ou jazz, ou voilà, avec différentes formations. Mais il m'a donné le virus. Non, j'avais déjà le virus de la batterie en solo avant de le rencontrer. Disons qu'il a correspondu à une attente, quoi. Mais voilà, la batterie en solo, ouais, pour moi, c'est le top, quoi. Je pense que je retrouve d'ailleurs un peu le même principe que le piano en solo, finalement. C'est des instruments qui sont très riches au niveau polyphonique, au niveau des vibrations. Bon, voilà, je crois que j'ai un peu la même approche avec le piano qu'avec la batterie. Sauf que le piano, je suis exclusivement interprète. Et la batterie, ce qui m'éclate, c'est de composer des pièces pour batterie solo.
Une grande influence musique classique, t'as grandi pas mal là-dedans, mais qu'est-ce que t'as pu avoir aussi comme autre influence musicale? Dans quel genre de groupe t'as joué? Enfin, qu'est-ce que tu faisais un peu plus jeune quand tu te cherchais au niveau musical aussi? Qu'est-ce que t'écoutais, tes influences? T'as parlé du rock, les Guns, tout ça, mais comment tu pourrais aussi nous décrire un peu tes passages dans différents milieux? Est-ce que t'écoutes de l'électro? Enfin, ta vision un peu sur tout ça.
Donc ouais, ado, j'étais très rock. J'en ai joué beaucoup, voilà, on a fait des groupes de reprises, de compos, comme tous les ados à l'époque, quoi. En plus, à l'époque, c'était pas institutionnalisé. Maintenant, si vous voulez jouer du rock, vous allez à l'école de musique, vous avez des cours de batterie, de guitare électrique, tout est fait pour que vous ayez des bonnes conditions. Non, à l'époque, non, c'était hors cadre, quoi. C'était un garage, il fallait se battre pour trouver un instrument, il fallait se battre pour pouvoir répéter, il fallait se battre pour trouver des dates. C'était compliqué, mais ça faisait partie du cheminement, quoi. Vers 18-19 ans, j'ai commencé à écouter du jazz. Parce que, c'était un peu... C'est quand même les racines de la batterie, puis c'est une musique qui m'attirait, c'est un truc qui me parlait. Donc j'ai joué du jazz aussi pas mal. Quand j'avais 20 ans, j'avais un groupe de métal qui s'appelait Lazy. C'était un très bon groupe de métal français. Ils ont joué un peu après que je les ai quittés. Ils ont enregistré des disques que je réécoute encore avec plaisir. Et puis en parallèle... Alors oui, là c'était banlieue nord, tu vois, on répétait à Sarcelles. Et puis... Clivage, haute monde, quand je jouais du jazz, c'était dans les caves du 5e arrondissement, tu vois, quartier latin, ambiance piano, contrebasse, batterie avec les ballets, tu vois, enfin c'était deux mondes différents. Donc voilà, on va dire que j'ai un peu fréquenté le milieu du jazz. Quel autre milieu? Je saurais pas dire, non, j'ai jamais été intéressé par les musiques électroniques. Ce qui m'intéresse, c'est la musique acoustique. Bon, tu vas me dire, le rock, c'est pas très acoustique, mais il y a quand même une idée vraiment instrumentale. Voir la batterie, tu peux éventuellement te passer de sono si la salle n'est pas trop grande, quoi.
Alors du coup, aujourd'hui tu viens ici à Sommières, au bâtiment Laurence Durel, pour faire un spectacle de conte-musique ou de musique-conte, je ne sais pas comment dire, mais qu'est-ce qui a fait justement que tu t'es passé de la musique, avec un parcours assez costaud dans le monde de la musique, au conte? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers ça?
C'est toute une histoire. On vient de me filer un bouquin là, d'un type qui s'appelle Adrien Rivière, qui a écrit un très joli livre sur les récits et qui propose l'idée que la narration finalement est constitutive de l'être humain. Il n'y a pas d'être humain sans narration. Et c'est un truc qui me parle. Effectivement, je pense qu'on invente tous nos propres récits, tu vois, sur les réseaux sociaux, c'est flagrant. Moi, mon propre récit, je l'ai inventé, mené, gravé, et c'est... Je pense qu'il a commencé déjà avant ma naissance, mais il y a eu un élément important à 4 ans. À l'époque où j'ai commencé mes deux instruments, c'est que mes parents ont divorcé. Bon, c'était pas bien méchant, hein, mais quand même, ça marque un petit garçon de 4 ans. Et il me semble que dans mon inconscient, j'ai associé le piano avec le féminin et la batterie avec le masculin. Que dire, tu devines la suite, j'ai toujours eu un clivage entre les deux. Quand je jouais du piano, j'étais parfaitement moi-même, je m'éclatais avec mon piano... Mais il me manquait un truc. Quand je jouais de la batterie, je m'éclatais avec ma batterie. Il me manquait un truc aussi. Si bien que j'ai beaucoup, si tu veux, hésité même pour ce qui est parler des études, tu vois, la professionnalisation entre les deux. À 18-19 ans, j'ai démissionné du Conservatoire de Paris, où j'étais vraiment dans les bonnes classes, musique classique et tout, pour faire que de la batterie, alors qu'il y avait la batterie, il n'y avait pas de cursus, quoi. Il n'y avait pas de diplôme, il n'y avait absolument rien. Donc c'était assez extrême, mais il a fallu que je fasse, quoi. Je pouvais pas être exclusivement féminin ni exclusivement masculin. Voilà, il fallait que je trouve un moyen d'allier les deux. Donc ça a été une souffrance que je pense avoir résolue dans les histoires. Depuis que je suis ado, j'écris des histoires. Il y a des histoires qui sont importantes pour moi. Quand j'étais gamin, j'adorais l'histoire avec un grand H, l'histoire médiévale. Voilà, si j'avais pas été musicien, peut-être que je me serais orienté vers ce truc-là. Bon, après, je pense que ça m'aurait un peu gonflé, parce que le côté scientifique, non, c'est plutôt l'imagination qui m'attire. Et voilà, et puis finalement, je me suis construit des univers que j'habitais, que je travaillais, que j'écrivais. C'était des trucs assez forts pour moi. Assez douloureux aussi, parce que c'est vachement dur de partager ces univers avec des gens qui... Même des gens qui sont proches, hein. C'est quand vous avez un jardin secret, un truc assez large, assez intime, assez puissant, des fois c'est difficile de le partager. Et puis jusqu'au jour où je me suis dit, bon, alors ces univers, ils étaient, c'était des récits souvent avec des mondes imaginaires, mais ils étaient toujours liés à la musique. Ouais, il y avait des choses qui étaient liées au piano, des choses qui étaient liées à la batterie, et il y avait notamment un univers que j'avais construit avec les deux instruments, qui me permettait, moi, de synthétiser mes deux répertoires. Et un jour, je me suis dit, ok, super, je vais monter sur scène, je vais raconter l'histoire, je vais jouer de la musique. Donc j'ai fait ça à Paris en 2010, au Théâtre de l'Archipel. C'était un spectacle qui durait 3 heures quasiment. C'était un grand récit épique et fantastique. Voilà, avec des très belles pièces de musique. Seulement, je me fais rire moi-même, je ne connaissais rien à l'art du conte. Je suis monté sur scène, j'ai improvisé finalement. Enfin, c'était pas de l'impro, c'était plutôt du récit, c'était plutôt un texte que j'avais écrit. Mais j'avais aucune idée de comment structurer, comment raconter. Je connaissais aucune technique de narration. Donc voilà, c'est un spectacle que j'ai joué plusieurs fois jusqu'à ce qu'un jour une copine me dise « Écoute Bastien, on adore quand tu joues de la musique, mais quand tu racontes, excuse-moi, ça marche pas terrible. » Et je me suis dit « Ah ouais, elle a peut-être raison. » J'ai décidé de me former au conte et j'ai fait un stage d'initiation en 2012 avec Jihad Darwish. Qui nous a fait une sorte de panorama du conte. Pour moi, c'était une porte ouverte immense. Je me disais, mais en fait, les trucs que j'ai dans la tête depuis que je suis ado, que je pense que je perds mon temps au lieu de travailler mes concertos au piano ou de jouer du jazz à la batterie, en fait, ça a un sens, ça a une importance pour moi, qui est à prendre en compte, et c'est une richesse. Voilà, et puis après ce stage, j'ai commencé à me former avec Pascal Quéré, voilà, qui est un grand pédagogue du conte, avec qui je travaille encore régulièrement. Voilà un peu mon parcours. Donc finalement, le conte, ça me permet de lier mes univers musicaux et même plus que ça, quoi. C'est un truc, voilà, pour moi, il y a une unité entre le conte et la musique.
Compte tes histoires en même temps que tu joues, ou c'est tu joues et tu comptes entre les moments, les passages musicaux? Comment tu maries les deux?
J'essaye tout. Moi, bon, je me considère avant tout comme un musicien. Donc il y a toujours des vrais moments de musique. Évidemment, c'est pour moi la musique, c'est pas juste l'accompagnement de la narration. Il y a des moments où on rentre dans un univers musical et on y reste pendant un petit moment. Après, j'aime bien. Alors ça dépend des projets, des spectacles que je joue. En général, j'aime bien compter sans musique, jouer sans compte, compter avec la musique, voilà, essayer un peu tout ce qui peut se faire et tout ce qui a un intérêt, quoi, pour servir l'histoire.
Alors, tes spectacles, t'en as plusieurs, là, j'ai été voir sur ton site, on va rentrer un peu, tu vas nous les présenter un petit peu, mais est-ce que c'est toi qui les écris? Est-ce que c'est des histoires que tu reprends? Comment tu travailles? Est-ce que c'est la musique qui va choisir l'histoire ou l'histoire qui va choisir la musique? Comment tu peux parler un peu de ton univers, de ce que tu fais, et voilà, est-ce que t'écris tes contes ou est-ce que tu reprends des contes comme beaucoup de conteurs?
Alors, c'est une bonne question. Alors, c'est de la même façon, j'essaye. Il y a des univers qui m'ont été inspirés par des pièces déjà écrites, notamment voilà, la musique de Brahms au piano, c'est un truc qui me porte beaucoup, et c'est des univers assez, assez épiques, voilà, très riches, ça m'inspire des histoires que je vais après écrire ou raconter. Il y a des histoires qui m'inspirent de la musique, comme celle que je vais jouer ce soir, là, Le Loup Bleu, c'est voilà, j'ai lu ça avant de l'associer à la musique. Il y a des projets pour lesquels je fais histoire et musique, voilà.
Tes spectacles sont... T'en as combien au compteur, là, aujourd'hui, et pour quel public?
Je dois avoir 7 ou 8 spectacles. C'est souvent, allez, on va dire de 7 à 200 ans. Non, je sais pas, à partir de 7 ans, quoi. Voilà, j'ai un spectacle pour les petits, 3-7 ans. En général, c'est des trucs qui peuvent être regardés par les enfants, mais qui plaisent aux adultes ou aux ados. Voilà, disons que c'est un truc que je remarque en général, même quand je fais des spectacles pour enfants, des fois, il y a quasiment que des adultes dans la salle et ils m'ont dit ouais, ça nous a plu, quoi. C'est déjà arrivé. Voilà, le spectacle que je joue ce soir, c'est plutôt ado-adulte. Il y aura des enfants, on verra comment ils le reçoivent.
Alors, justement, ce soir, tu joues dans la cour de Laurence Durel, dans cette jolie cour. Tu joues le loup bleu. Je crois que c'est tiré de l'histoire de Gengis Khan, si je prononce bien. Comment tu pourrais nous le présenter, ce spectacle, l'univers comment tu peux le présenter?
Alors, si tu veux, la genèse du spectacle, en 2008, j'ai écrit une série de pièces pour batterie solo qui était inspirée, me demande pas pourquoi, par la Sibérie médiévale. J'ai aucune idée, ou en tout cas à l'époque, j'avais aucune idée de ce qu'était l'univers de la Sibérie médiévale. Peut-être c'était pour moi le truc le plus antinomique de mon univers quotidien. Donc j'ai écrit, je sais pas, il y avait 7-8 pièces de batterie. Voilà, et c'est à cette époque-là, il y a un film de Sergei Bodrov, un russe qui est sorti, qui s'appelle Mongol, qui raconte l'histoire de Gengis Khan, que j'ai vu au cinéma, et je me suis dit, ouais, c'est vraiment le même univers, quoi. J'avais lu avant ça, plusieurs années auparavant, un livre qui m'avait marqué, que j'ai ressorti et qui m'a retourné la tête, qui est un bouquin d'un japonais qui s'appelle Yasushi Inoue, qui s'appelle Le Loup Bleu. Et c'est l'histoire de Gengis Khan, mais il y a aussi il interprète finalement le mythe de Gengis Khan. Et l'interprétation m'a plu. Et j'ai réalisé que ces pièces que j'avais écrites étaient... ça correspondait tout à fait avec l'histoire, avec l'univers, avec l'atmosphère. Voilà, donc j'en ai fait un spectacle, voilà. Voilà, puis il y a des choses qui m'ont, je sais pas, qui m'ont mis la puce à l'oreille. Par exemple, j'avais écrit une pièce qui s'appelait Shaman. Voilà, elle est en deux parties, je la joue ce soir-là. La première partie, c'est le rituel, donc quelque chose d'assez lent, d'assez puissant, d'assez entraînant. Et la deuxième partie, c'est la transe, avec un rythme cardiaque un peu, on va dire, asymétrique. Voilà, c'est la transe. Et en me renseignant, évidemment, j'ai commencé à bosser sur l'histoire. Je me suis dit, bon, j'ai pris mes bouquins, mes trucs sur la Sibérie et tout. Et je me suis rendu compte que l'origine du chamanisme, c'était la Sibérie médiévale. Pour moi, les chamans, c'était plutôt des trucs ouais, mexicains, quoi, genre Castaneda ou tibétains à la rigueur. Mais j'avais absolument pas idée que l'origine du chamanisme était la Sibérie. Bon, voilà. Ça a peut-être contribué aussi à me lancer dans cette quête, quoi, en spectacle. Et sur le loup bleu, ah si, il y a un truc qui est important pour moi aussi, donc avec cette histoire-là. Bon, c'est une épopée. C'est une épopée musicale. Donc les dimensions sont assez longues. C'est une histoire que je raconte normalement en deux parties. Ce soir, je la synthétise, je vais la faire en une partie, mais je pense que ça marche pas trop mal comme ça. Voilà, c'est des histoires de clans, de batailles, de trahisons. Et ce qui me plaît surtout dans cette histoire, c'est qu'elle est... Elle est extrêmement masculine. Voilà, c'est mon masculin. C'est complètement batterie. C'est, comment dire... Bon, c'est presque un cliché, hein, la figure de Gengis Khan. C'est, je crois que dans l'histoire de l'humanité, c'est peut-être un des rares, voire le seul chef dont personne ne put jamais contester l'autorité. Personne. Ni au sein de sa famille, ni au sein de son clan, ni au sein... Personne. Bon, il y a le pape qui a dit « Ouais, nous, on n'est pas d'accord, mais bon, les Mongols seraient arrivés jusqu'en France, le pauvre, il n'aurait pas eu son mot à dire. » voilà, donc c'est on va dire, une espèce d'aboutissement de l'énergie masculine. Alors oui, ça pose des questions aujourd'hui, parce qu'on est sorti du patriarcat, et que ça a des connotations aujourd'hui assez, assez négatives, que je reconnais et que je comprends tout à fait. Mais, on va dire, cette énergie qui s'est réalisée, par exemple dans des conquêtes, ou dans un désir de puissance, c'est une formidable énergie. On va dire que c'est ça qui fait tourner la Terre. Elle n'est pas obligée de se matérialiser dans des guerres. Elle peut se matérialiser dans de l'art, dans de la musique, dans une histoire, dans ce qu'on veut. Mais c'est la même énergie. C'est cette énergie masculine qui m'intéresse dans ce spectacle.
Pour finir, j'ai vu que t'offrais du thé en fin de spectacle. Avec un nom assez dur à prononcer sur le papier. T'as été sensibilisé au goût du thé. Qu'est-ce qui te donne, c'est pour le côté convivial en fin de spectacle, qu'est-ce qui te donne envie d'offrir du thé comme ça aux spectateurs? Et puis, quelle sorte de thé tu leur offres?
Ouais, c'est une bonne question. Alors, si tu veux, comme beaucoup d'écrivains, je pense, j'ai un carburant. Voilà, il y en a qui fonctionnent au café. Tu vois, c'est qui? C'est Balzac, je crois qu'on est mort, quoi. Je buvais tellement de litres de café en écrivant, mais c'est un truc que je comprends, ouais, ça... Voilà, on a peut-être besoin pour écrire, je sais pas. Moi, c'est le thé. Alors, c'est un thé très particulier qui vient du sud de la Chine, d'une région qu'on appelle le Yunnan. Et c'est un thé qu'on laisse vieillir, qui s'appelle le pu'er. Et alors, quand il est jeune, c'est comme un thé vert, mais très, très puissant. Et plus il vieillit, plus il va devenir noir. Un vieux thé, c'est la boisson d'une couleur noire profonde. Le goût va s'adoucir. C'est souvent des goûts un peu de terre, quoi, de nature, de feuilles mortes. Voilà. Mais plus il est vieux, plus il aura d'énergie. Alors pour nous, occidentaux, on se dit énergie, ouais, c'est-à-dire, bon, voilà, c'est un truc que les Chinois appellent ça le chi. Pour eux, c'est une réalité. C'est-à-dire que c'est un peu comme quand vous buvez un vieux thé, un vieux pu'er, c'est comme si vous faisiez une séance de tai chi. Ça va vous ancrer dans le sol, vous allez avoir des sensations physiques qui vont s'épanouir dans le corps. Voilà, c'est des sensations d'énergie. Et alors pour moi, voilà, c'est vrai que j'utilise pas mal le terme énergie, c'est un truc qui est assez important pour moi. Cette énergie, on en a beaucoup parlé quand j'apprenais la musique, quand j'avais 17-18 ans, j'ai commencé à faire ça un peu de façon poussée. Ouais, ça me parlait, ça m'intéressait, mais je voyais pas exactement ce que c'était. Et en fait, j'ai découvert ça. Pourtant, je pratiquais des exercices de détente, de ce que tu veux, mais j'ai vraiment découvert ce que c'était que cette énergie en écrivant des histoires et en buvant du thé. Voilà, il y a un moment où ça vous... Je sais pas, c'est une sensation physique, quoi. Vous sentez un truc qui se déplace dans le corps, vous dites « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» C'est un peu comme le frisson qui va sur les chines quand on écoute de la musique, quoi. Mais ça prend tout le corps, quoi. Ça peut être très fort. Et puis, j'ai vécu ça de façon assez forte, effectivement, en écrivant. Plus qu'en jouant de la musique. Et donc, j'ai connecté avec cette énergie en buvant ce thé pu'er ancien et en écrivant des récits. Maintenant, c'est l'énergie qui m'habite. Et effectivement, dans la musique, c'est indispensable dans tout ce qu'on fait. C'est un peu ce qu'on enseigne dans les arts martiaux. C'est d'abord le travail sur l'énergie et ensuite la direction que l'énergie va prendre dans le corps pour accomplir un geste qui va avoir un résultat guerrier, éventuellement sonore dans d'autres cas. Dans mon cas, en tout cas.
Et avant de se quitter, est-ce que tu aurais un dernier mot pour nos auditeurs, un petit truc à rajouter ?
Vous vivez dans une belle région. Moi, je suis installé pas loin d'ici depuis 12 ans maintenant. Ouais, c'est ça, 10-12 ans. Et ça me plaît bien. Il y a une force ici, quoi. Il y a une force, il y a un côté assez sauvage. Ça n'a rien à voir avec le reste de la France, quoi. Ça me plaît. Alors, mon grand-père était breton. On parlait de breton, était breton. Il était comédien. Et il s'est installé pas loin d'ici, d'abord à la Grande Motte, puis à Pézenas, où il a monté un festival d'art dramatique, qui était assez célèbre en son temps. Voilà. Et je rencontre encore parfois des gens qui l'ont connu, qui ont travaillé avec lui, voilà, ça me fait plaisir. Voilà, André Croc, il s'appelait. Voilà. Je suis très content d'avoir partagé ces quelques minutes avec vous. Merci à tous.